Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle l'éternel féminin, la féminité.
Simone de Beauvoir disait « compétence et intelligence, deux mots sans sexe ». Elles sont au sommet du savoir et pourtant les femmes ont toujours du mal à le faire savoir. Manque d'audace, de confiance en soi, sentiment d'illégitimité et parfois, il faut bien l'avouer, femmes oubliées. Je m'appelle Christelle Chiroux et je me bats pour aller les chercher. Elles sont scientifiques, médecins, économistes, sportives, avocates ou historiennes. Elles sont là et bien là. Elles ont des parcours impressionnants et passionnants. J'ai décidé dans ce podcast d'amplifier leur voix. À les écouter, vous ne pourrez plus les oublier. Bienvenue dans Expertes à la Une. Bonjour Eva.
Je n'ai même pas, où j'ai mis mon masque. Je vais le mettre.
Mais vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas obligée d'avoir votre masque.
Oh, mais quand même, vous serez peut-être plus à l'aise. Entrez à votre droite, là.
Merci. Ça, c'est chez vous, Eva.
Ça, c'est chez moi. Et en bas, c'est l'école, au premier étage. Allez.
Hop. Mais en ce moment, l'école est fermée ?
L'école est fermée, bien sûr. Nous sommes classés par l'Académie de Paris. Établissement libre d'enseignement supérieur. Nous profitons d'un, un sigle unique au monde. Il n'y a aucune école de yoga qui a été reconnue d'utilité comme ça. Alors on obéit, hein ? On a aussi des consignes.
Vous avez une superbe vue, Eva.
Vous avez vu comment je suis bien. Ce sont mes élèves qui m'ont logé là.
Il paraît que quand on arrive chez vous, il faut apprendre à respirer.
Mais bien sûr, il faut s'écouter soi-même. Hein.
Inspirer, expirer, prendre le temps du rien. Eva m'ouvre la porte de son temple, un petit bout de femme de 93 ans qui va partager avec moi un moment de son existence. Écoutez, se laisser porter par le rythme de son histoire, bienvenue chez Eva Ruchepol, la grande dame du yoga, son yoga. Merci Eva de me recevoir chez vous.
Mais regardez, c'est bien mieux chez moi que courir les rues et aller chez vous. Professionnellement, vous êtes sûrement très riche, mais pour l'accueil, c'est mieux de n'être pas professionnel.
N'est-ce pas ? Vous êtes une pionnière, Eva. Oui. Vous avez introduit le yoga en Europe,
mais
dans les années 60.
Oui, j'ai touché, disons en 60, un public qui pensait jusque-là que le yoga... C'était un vieux machin indien.
Vous êtes une experte du yoga.
Non. Je suis tombée là avec une grande difficulté personnelle et bien persuadée que ça me suivrait toute ma vie. Une vieille poliomyélite que j'ai eue à l'âge de 18 mois qui m'avait laissée... à côté du corps, du haut en bas paralysé, et le bras opposé. Bon, comment faire de... Qu'est-ce que j'avais à faire de cette vieille chose ? Quand j'étais enfant, je ne me tenais pas debout. Je n'ai pas été à l'école, moi. C'est peut-être ça ma chance, hein, je te le dis. Et bon, j'avais des parents extrêmement intelligents et qui m'ont fait confiance. Et je me suis retrouvée avec un régime d'auto-entretien qui a rencontré que des grâces. J'ai rencontré en Égypte, où mes parents étaient des fonctionnaires représentant la France.
Parce que vous avez d'abord grandi...
Là-bas.
Dans le sud. Vous êtes née...
Je suis née à Béziers.
Vous êtes née à Béziers.
Et mes parents sont partis de Béziers à Alexandrie. Et j'ai fait 12 ans à Alexandrie.
Et que faisaient vos parents ?
Mon papa était professeur de philosophie. Et ma maman était maman à la maison. Et superbement naturelle. Et bon, c'est tout à fait exceptionnel qu'on me fiche la paix. J'ai été à l'école à 12 ans. J'ai su nager avant de marcher. Parce que c'était chaud, parce que quand on nage, on a une symétrie, sinon on coule. Alors vous voyez, quand on est émis, une moitié paralysée, le gros problème, c'est de garder une symétrie. Et bon, j'ai trouvé là-bas une façon de me soigner, une façon d'être protégée. Et bon, ça ne m'a pas pesé, c'est 12 ans, c'est bon.
Et qu'avez-vous fait pour vous soigner ? De la natation ?
La natation, les bains de sable chaud. Et on me plongeait, on m'étalait dans le sable chaud, on me remettait mon chapeau et je faisais le sable chaud comme ça, 3-4 fois par semaine. Pas brûlant, mais chaud. Alors, quand je raconte ça à des spécialistes, ils me disent « Ah oui, la silice par la peau. » Je ne sais pas, hein, je ne connais rien. Bon, moi, je n'allais pas à l'école, je lisais, je me faisais mon école moi-même, ma mère aussi contribuait. Et puis la guerre est venue et mon papa, qui était français, voulait faire la guerre, alors on est rentré. Plus de soins, plus de chaleur. Un peu trop de nazis, et j'ai changé, une fois on a compté avec ma mère, 16 fois d'identité et de logement en 11 mois, la galopade. Le grand frère, dans les réfractaires, comme on disait à ce moment-là, toute la famille en guerre, et on est retourné en Égypte, re-accueilli en Égypte, en 1945. Donc, vous voyez, c'est très tiré par les cheveux, ça. Hein? Très, très tiré par les cheveux.
Et vous vous souvenez quand vous avez pu remarcher ?
Quand
vous avez marché.
Quand j'ai marché, je ne vais pas, vous ne me le direz pas.
Après, si vous me le dites.
Mais non, vous allez voir pourquoi. Un vaccin contre la diphtérie, il y avait une épidémie à ce moment-là. 2 heures après, j'étais paralysée. J'ai fait une réaction épouvantable. Alors, comme si 13 jours de coma. Bon, un bébé de 18 mois, hein, comment il en sort, on n'en sait rien. Bien. Mais ce qu'il y avait, c'est que le vaccin, on l'a fait par moitié. La moitié de l'ampoule à mon frère, qui avait 9 ans, et qui a fait un urticaire géant jusqu'à l'âge de 14 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce machin ? On n'en sait rien. Alors, il ne faut pas le dire maintenant, parce que pour tous les gens qui ont été sauvés à ce moment-là, de ce qu'on appelait le croup, les enfants qui mouraient dans une maladie affreuse. Et après, pour tous les enfants qui ont connu le vaccin, il vous suffit, vous l'avez peut-être déjà fait, d'aller dans les pays dits en développement pour rencontrer sur la place des villages, dans les marchés, des gens contrefait assis sur une planche à roulettes pour la vie. C'était ça la polio. Et tout le monde doit se vacciner. On laisse la chance à une tellement grande majorité de sortir de la vulnérabilité. Bon, il y en a 3 ou 4, boum, ça vous tombe dessus, et alors ça vaut quand même la peine.
Vous allez vous faire vacciner ?
Ou cela ? J'ai 93 ans, hein ? On en profite. Moi, j'en veux pas. Non, je n'ai... Si je dis ça à un vrai médecin, il ne va pas me vacciner.
Vous, vous êtes mariée très jeune, Eva.
20 ans.
À 20 ans. Qui était votre époux ? C'est lui qui vous a enseigné le yoga ?
Non. Il a défendu que j'aille apprendre le yoga nulle part. Il faut dire que les hommes de ma famille ont été d'une certaine façon terriblement différents. Mon petit papa, qui était un monsieur très tendre, très charmant, ne m'a jamais ramassé. Quand je tombais, il disait « poum » et il attendait que je me relève. Et mon mari n'a jamais, m'a interdit. J'ai été en Inde seulement en bateau sur le Gange pour faire le touriste. On ne s'est pas arrêté dans un seul ashram. Rien. Mon mari disait, ils l'ont appris tout seul. Pourquoi est-ce que tu veux copier quelqu'un ?
Et votre mari ?
Mon mari était indien 100% brahman, de famille horrible, très gentil, mais très, très traditionnel. Et on lui avait dit, tu vas en Europe pour faire des études médicales, il était kinésique. Deux choses, tu ne manges pas de viande et tu ne te maries pas avec une Européenne. On aimait bien le beefsteak et il s'est marié avec une Européenne.
Alors, il n'a pas voulu vous enseigner le yoga. Comment l'avez-vous appris, Eva Ruchepol, le yoga ?
Eh bien, écoutez, d'abord, j'avais été toute mon enfance exposée à ces soins du corps. Quand vous avez un endroit qui ne veut plus bouger, qu'est-ce que vous faites ? On se cause, on se parle, on chauffe. Ah, on dit, tiens, quand c'est chaud, ça bouge un petit peu. On nage parce que ça bouge. Eh ben, on est en dialogue avec son soi. Et j'étais tombée sur un livre que je recommande toujours, où il y avait un monsieur indien qui faisait des postures et qui n'était pas avec un collant, on voyait sa musculature et toutes ses postures, même les plus difficiles, les plus... étaient sans une contraction visible. Il avait glissé dans la position, tranquillement. Il y avait, dans une des publications, dans une des... Ce livre, je le demande toujours à ce qu'on s'en... s'appuie dessus, c'est Yoga Asana de Louis Frédéric, publié chez Oliven, O2LIVEN, il y a, c'était peut-être en, je sais pas, en 65, en 62, ou en 51, je sais pas, un vieux bouquin, où il n'y a pas de baratin, il y a un bonhomme lisse, sans comment pourrait-on dire ? Sans contraction. Bon, je vais vous montrer. Soulevez ça, mon petit doigt. Allez-y, tirez.
Puis vous... Je vais vous faire mal.
Je sens rien.
Oh.
Vous pouvez lâcher. Soulevez mon petit doigt. Essayez.
Je ne peux pas.
Mais c'est ça, le yoga. À chaque... coin de votre animal, il attend votre accord. Là, je veux pas. Et vous pouvez tout, mais pas comme un dresseur de cirque qui dresse un animal. Hein? Vous avez une très belle chanson indienne qui a en refrain « Tu n'auras pas toujours le bonheur, tu n'auras pas toujours la chance de vivre dans un corps d'homme. Es-tu bien sûr d'avoir fait tout ce que tu sais pour t'en réjouir ?» Alors moi, quand j'avais des nouveaux élèves qui entraient chez moi, je pensais toujours, voilà. Dans quelques temps, 3 mois, 3 ans, je ne sais pas, on s'en fout, il aura ça derrière sa tête. Est-ce que je sais faire tout ce qu'on peut savoir faire pour m'en réjouir? Et quand il est entré chez moi pour la première fois, il avait dans sa tête la culture de son pays, dont le petit sonnet du XVIIe siècle. Quelle belle promenade nous avons fait tous deux. Mon âme, cette marquise, et mon corps, ce monstre hideux. On est tous là-dedans. Il faut on n'en parle jamais. Il faut qu'ils fassent le voyage de l'un à l'autre. Es-tu sûr d'avoir fait tout ce que tu fais, tout ce que tu peux pour t'en réjouir? Vous imaginez?
Il y a 50 ans, Eva Ruchepol, vous avez ouvert votre école de yoga.
Pourquoi? Parce que il y avait un consensus général, il y avait à la française des grandes fédérations comme les fédérations de sport, il y avait de ma part une imprudence. On avait à ce moment-là des sportifs, une petite pincée de skieurs hors normes qui avaient tout réussi à leur dernier concours, je ne sais pas où, en Amérique. Puis on avait strictement les mêmes, pas un plus, en formation, zéro, rien, plus rien, pour les Jeux Olympiques à Grenoble. Le neuropsychiatre est venu me chercher et j'ai fait, quand on n'a plus de pain, il faut faire la soudure jusqu'à l'année prochaine. Parce que, et on les tuait à l'entraînement. Comment faire pour avoir les mêmes un an après? Il n'y avait pas de relève. Oui, on a toujours su à quoi ça servait le yoga. Toujours.
C'est-à-dire qu'on est venu vous chercher pour former les sportifs de haut niveau.
Mais pour secourir les sportifs de haut niveau dans le train de mesure qu'on connaissait, qu'on avait en étude à ce moment-là. On a bien changé, je pense, maintenant. Mais les stages, c'était la meilleure façon de tuer n'importe qui. Vous en sortiez bien. Une fois, je leur ai fait honte parce que je leur ai montré... ça faisait un an ou deux ans que j'étais là-dedans. Les statistiques de toutes les grandes familles de sportifs, les Allemands, les Suisses, sur ski. À partir de février, ils avaient tous, les nôtres, fait un stage en clinique. Et il y avait des spécialistes. Tous les ans, ils se cassaient quelque chose. Pendant la préparation, ils étaient épuisés. Les autres se cassaient aussi, mais pas avant février. Ils avaient eu le temps de courir. J'ai été jusqu'en Pologne, ils m'ont emmené partout, j'ai eu une vie de patache. Mais ils comprenaient très bien ce que c'était. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus supporter leur entraînement. Physiquement, on en est là. C'est le neuropsychiatre qui est venu me chercher.
Et qu'est-ce que vous leur avez apporté?
C'est la même chose qu'à une mère de famille qui n'en peut plus, qui travaille, qui fait la cuisine, qui a les nerfs qui lui sortent par les oreilles, et qui a les moutards, et qui a la responsabilité, et qui s'engueule avec tout le monde. C'est la même chose. Retrouvez-vous gentiment. On va respirer. Il y a un rythme respiratoire. Bon.
Ce sont ça les clés?
C'est ça la clé. C'est pour ça qu'autrefois, peut-être aussi maintenant, nos grands religieux chantaient. Ils chantaient sous des voûtes qui leur envoyaient des vibrations. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez visiter à 20 km de Saint-Tropez l'abbaye du Toronnet. Si vous arrêtez là, c'est très saisissant. Vous entendez les gens qui ont chanté là-dedans pendant des siècles. Vous êtes tout seul. La voûte vous renvoie la vibration. Et c'est ça, une respiration suivie et ressentie. Moi, mes élèves, je les embête en parlant pour les tirer et leur faire bouger, puis les remettre, bon, dans leur espace. Mais on ne parle jamais de tout ça. Ils viennent comme à la cantine. Hein? J'ai eu une expérience tout à fait intéressante une fois avec un monsieur très connu à ce moment-là et peut-être encore maintenant, sanskritiste, 22 ans en Inde, qui s'était dit « Oh non, le yoga, je m'aime trop pour ça. » Parce qu'il avait vu par sa fenêtre et m'a raconté après des Indiens qui faisaient du yoga, qui cherchaient la performance. « Oh, je m'aime trop pour ça. » Alors, il m'a dit quand même, il avait 72 ans. Il avait une hernie, il ne pouvait plus bouger, il ne faisait plus de sport. On faisait très attention à lui, il était complètement sourd. Je lui ai fait poser ses appareils. Et puis, à côté de lui, chose que vous pouvez signaler, jamais quelqu'un n'a commencé à faire du yoga sans être seul dans le cours, seul avec moi. On ne fait pas ça par rapport aux autres, en copiant. Ce n'est pas possible. On ne fera pas des générations de yogis en ayant 30 débutants à la fois. Par contre, on fera des générations de yogis qui sont encore là quand ils se sont rencontrés tout seuls. Alors, mon monsieur en question, 72 ans, 22 ans d'Inde, très connu, un fils psychanalyste à New York, une fille écrivain, enfin je sais pas quoi, fait ce que je lui demande tout seul dans mon bureau, dans mon ancienne école. C'était un grand monsieur, il avait les pieds sous le bureau, la tête contre le mur. Et moi, j'étais autour. Quand on a fini quelques exercices qui apprennent à relâcher pour mieux s'entendre avec la respiration, je l'assieds contre le mur, bon, mon silence, et après 22 ans d'Inde, d'essais psychologiques, de je ne sais pas quoi, dans le silence, après sa petite leçon, où apparemment on avait fait des exercices, comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce silence sans solitude? Il avait tout compris.
Et là, vous aviez gagné.
Moi, j'avais tout gagné. Mais pourquoi on a peur du silence? Écoutez, faites-nous une fois une campagne contre le volume des décibels qu'on nous fait avaler avec la télévision. Et soin soin, et soin soin les petits cochons, et soin soin, et soin soin. C'est la corne d'or au clair de lune. Et soin soin, mais enfin foutez-nous la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pourriez nous faire un truc merveilleux. Vous allez vous mettre à dos toute la profession, mais quand même.
Les cours de yoga d'Eva Ruchepol sont très demandés. Vous avez beaucoup de personnalités, de gens connus qui viennent vous voir.
Mais bien sûr, ils ne vont pas perdre leur temps, ces gens-là. Puis en général, ils ne le disent pas. Hein. Alors bon, il y en a quelques-uns qui ont cafeté. Bon, ils ont...
Qui avez-vous eu comme
non,
personnalité?
Non, je ne vais pas cracher sur leur silence. Ils vous le diront. Mais je vous dirai que j'ai eu les médecins de nos présidents de la République qui mettaient entre parenthèses une demi-heure pour venir, une heure pour travailler, une demi-heure pour retourner. J'ai eu des gens très importants dont je ne savais pas du tout ce qu'ils faisaient dans le civil. Moi, je m'en fous, mais je ne savais pas ce qu'ils font dans le civil. Une fois, il m'est arrivé une aventure très désagréable parce que un monsieur très gentil avait décidé de sacrifier une journée pour me servir de soutien moral, et j'allais consulter un grand Manitou de la SACEM, le président de la SACEM. Alors le monsieur en question, qui était un de ses protégé, c'était cravaté, machiné, truqué, et on attendait l'heure de notre rendez-vous. La porte du grand patron s'ouvre et il lève les deux mains au plafond en disant « Eva, qu'est-ce que vous foutez là ?» Il m'attrape par les deux épaules et il m'embrasse. L'autre qui avait sollicité un rendez-vous depuis je ne sais pas combien de temps, etc. Mais je ne savais pas que mon bonhomme du mardi matin à 10h30, c'était ce monsieur. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Ils laissent leurs chaussures de profession comme les musulmans enlèvent leur godasse à la porte de la mosquée.
Vous avez refusé, je crois, de donner des cours à Madonna.
Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'elle se montre en posture de yoga pour dire... Bon, et c'est une personne qui était déjà en déclin et qui ne voulait pas que ça se sache. Alors il valait mieux qu'elle sorte... Elle n'avait rien à faire là-dedans. Moi, quand quelqu'un vient, il en a peut-être pour la vie, j'en sais rien, il fera du yoga ailleurs, et il fera du yoga tout seul, il fera du yoga avec moi. Mais il est entré dans une manière de se faire. Hein? Vous avez un Français, Masson Oursel, qui a dit, un chercheur, un philosophe, je ne sais pas quelle est son étiquette, et il a fait des très bons bouquins. Il a dit une fois, l'art est manière de faire. N'importe. Et le yoga est manière de se faire. Ben, il faut avoir du courage pour se faire. Hein? La grand-mère dont on a hérité est plus fautive. L'éducation, la guerre, toutes les aventures de votre existence sont celles qui vous forment. Et quand vous entreprenez vous-même à contribuer à cette vie, c'est difficile. Et quand ça ne va pas, c'est difficile. Et puis, l'autre danger, c'est quand ça va. Moi, je vois des gens qui abusent bêtement, comme disent les Canadiens, qui se prennent pour un autre, hein, qui font du coaching, etc. Mais non.
Hein. Eva, vous allez bientôt fêter vos 93 ans.
Oui, je suis née en 28. Alors, voilà, dans 15 jours, je crois, 13 mars. C'est 15, oui, c'est pas bien loin.
Un mois et demi.
Il y a un mois entre, oui. Oui.
Un mois et demi. Vous donnez toujours des cours?
Oui.
Vous en donnerez jusqu'à quand?
Jusqu'à ce qu'ils ne me supportent plus. Ils vont trouver que c'est idiot, ils ne vont plus venir. Voyez, je ne démontre que très rarement. Je démontre avec mon petit doigt, puis je respire. Alors là, oui, toujours, quand on veut, on me touche pour comprendre.
Est-ce que vous prenez toujours des nouveaux clients ?
Non. Les nouveaux sont déjà aguerris. Par exemple, j'ai 3 fois par an ce qu'on appelle un petit dimanche. Quelqu'un s'inscrit et reste un dimanche le temps d'une leçon. Après, il me pose des questions sur la leçon. On explique, on explore d'où ça vient, comment ça se passe, etc. Ce qu'a dit un tel. Vous savez qu'on a des gens en Europe qui ont très bien compris, hein, et qui savent vous expliquer des bouquins. Bon, et d'autres qui ne sont pas du tout de cette trempe-là demandent jusqu'à quel âge, comment. Alors, une chose pour laquelle je m'oppose méchamment, c'est le yoga pour les enfants. Cette forme d'apprentissage par imitation sur un organisme en formation, avec le genre de respiration que je cherche tout le temps. Hormones parlant, je ne sais pas ce que je fais. Je ne veux pas de quelqu'un qui est en train de se bâtir. Et puis, je pense que si par hasard, je réussis et qu'il a un grand moment de silence, sans solitude, son caractère d'enfant qui comporte une dose ludique, ben, il va péter les plombs rentrer chez lui. Je préfère l'envoyer faire du foot pendant 1 heure parce qu'en rentrant chez lui, il va se reposer.
Eva, j'imagine que vous êtes en ce moment particulier avec cette crise sanitaire une des rares personnes qui pourrait finalement peut-être nous donner des conseils.
Pourquoi pas ? Si je sais, hein. Oui, racontez.
Comment aller mieux dans cette période où on est parfois fermé, confiné ?
Avez-vous une baignoire ? Bon, vous passez aux prises uniques, vous prenez 1 kilo de gros sel. Vous le mettez dans votre baignoire, vous mettez de l'eau tiède, dans un moment où vous avez le temps, pas forcément en toilette, pas forcément au coucher, mais peut-être avant une bonne lecture, avant de sortir pour aller au théâtre, etc.
Bon. On ne peut pas en ce moment, Eva, aller au théâtre.
Pas. Bon, alors, grande baignoire salée. Quand vous touchez l'eau, c'est comme un beefsteak, je ne sais pas. Et tiède. Vous essayez de clapoter là-dedans. Les éléphants traversent l'Afrique pour aller se tremper quelque part. Imaginez-vous. Bon, ça fait 1 quart d'heure, ça fait 10 minutes, ça fait 20 minutes. Ça fait pas 1 heure et demie. Hein? Je ne sais pas. 2, 3 fois et vous sentirez quelque chose qui est à vous. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit ce que vous allez sentir. Pas d'hypnose. Hein? Et puis, si ça ne vous convient pas, vous le sentirez aussi. C'est vous. Hein? Mais ne vous donnez pas un but. Il y a une demi-heure de trempette. Alors, moi, je trichais un peu. Parce que un de mes élèves très calé m'avait monté la façon d'écouter ma musique classique. Et j'avais des disques, des... Comment dit-on maintenant, des records qui tournait sur mon appareil.
Des CD.
Oui, j'entendais dans ma salle de bain. Est-ce que vous avez entendu déjà les morceaux qui vous plaisent quand vous êtes détendu dans l'eau salée et que ça flotte à la surface? Oh bon. Alors, faites attention à vous Si vous sortez abattu ou si vous sortez énervé, c'est quelque chose qui est mal réglé. Vous devez sortir bien, c'est tout. Mais on ne s'étrille pas, on n'est pas James Bond sous la douche. Hein?
Est-ce que ça vous manque, Eva, de ne pas donner des cours en ce moment?
Je pense que si ça durait 6 mois, je serais partie. Ah oui. Parce qu'ils me tiennent, ils me demandent des choses, et ils m'empoisonnent la vie, mais ils me font vivre. Regardez, tout ça, je ne sais même plus qui c'est. Ils me soutiennent, ils m'appellent, ils sont au téléphone. Mais non, ça me manque beaucoup, parce que je dois me discipliner, moi. Là, pouf, j'ai jamais été jetée comme ça.
Est-ce que vous avez l'impression, Eva Ruchepol, que le yoga entretient aussi votre cerveau?
Ah, c'est le premier. Je respire et c'est... Je ne pense pas à lui, mais je sais très bien que j'aurai un regard plus simple sur une mauvaise réaction, une tristesse, une maladie ou une réussite de ma part. J'ai beaucoup de détachement par rapport aux résultats.
Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme mémoire, Eva Ruchepol?
Oh, bah rien du tout. Moi, je n'ai pas... Je suis pas... Je suis entrée dans une mémoire, si vous voulez, atavique, une mémoire au niveau des chromosomes, un vieil ancêtre qui m'avait laissé des traces. Et puis c'est tout, j'en ai profité. J'ai eu tout ce que je souhaitais. Avec patience et avec persévérance. Et bon, je ne sais pas encore, qu'est-ce qu'on peut appeler une vie heureuse? Oui, regardez comment je suis. Je vais finir comme en beauté, hein? Vous savez, il y a très longtemps que je suis aidée.
Est-ce que vous êtes une énigme pour les médecins et pour la science?
Il vaut mieux que je raconte pas. Bon, écoutez, je suis arrivée depuis l'âge de 60 ans, une culminance. Quand j'ai besoin de faire une consultation, il prend des notes, il me dit, c'est où votre école? C'est tout ce que j'ai. Et bon, c'est pas à l'école que j'ai appris avant. Mais même un cardiologue, la dernière fois, a dit à l'élève très gentil qui m'accompagnait, parce que lui, il a une voiture et que sa femme est médecin, il sait ce que ça veut dire. Il lui a dit, c'est où son école? Tu crois que je pourrais y aller? Voilà. Et la dernière fois que j'avais des problèmes de démarche, parce que de temps en temps, j'ai des misères. Alors il me dit, faites comme si vous alliez en... toucher vos pieds, et puis je descends, puis je mets les deux mains par terre, parce que c'est comme ça, je passe. Décrivez, puis regarde. Puis pour finir, il m'a dit, c'est où votre école? C'est tout ce que j'ai su. C'est tout. J'avais une maman très souple de nature, un papa très souple de nature, tous les deux avec une très grande intelligence. C'était ça, mon école. Mais j'aime et tout. Hein? C'est sûr. Le karma dans tout le monde, c'est Bobby. Mais ce sont nos cellules. J'ai le nez de ma tante Marthe, le petit doigt de mon oncle Albert. Mais tout ça, ça a vécu avant moi. Qu'est-ce que vous mythifiez ? Je suis le locataire d'un provisoire, d'un ensemble de particules qui était là bien avant moi. Tout ça, c'est plein de savoir.
Tout ça.
Mais tout.
Tout ça, c'est Eva Ruchpol.
Ben non. Mais vous avez la même chose. Que de fois vous êtes-vous dit, ah, j'aurais pas dû y aller. Eh ben, j'avais pas envie d'y aller. Consultez votre fort intérieur. Parce que quand je vous dis fort intérieur, pourquoi vous savez ce que c'est ? On ne l'a pas appris dans les livres et personne n'en parle. Hein ? Quand vous allez partir, j'espère que vous allez vous dire qu'est-ce que je mange ce soir. Consultez votre fort intérieur. Et vous verrez que ça va vous donner des envies de lire des choses qui restent précieusement dans votre tête. Ne lisez pas les choses qui vous barbent, hein, s'il vous plaît. C'est pas parce que ça vous barbe que c'est intéressant. Ça rapporte rien.
Est-ce que vous êtes habité d'une grande sagesse, Eva Ruchpol ?
Oh non, j'aime le chocolat, je suis légère. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils sont sinistres, les gens qui sont sages. Vous croyez pas ? L'horreur. Quelle horreur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Celui qui sait mesurer avant, pendant et après, oulala, mais c'est une mécanique, le sage. J'aime beaucoup la définition de un très ancien sage, justement, qui disait « La vie n'est pas importante par sa longueur, mais par sa largeur. » Et voyez, vous avez compris. On est outillé pour comprendre des choses comme ça. Comment ça se fait, la largeur de la vie, des abstractions comme ça? Et quand je vous parle de votre fort intérieur, tout le monde sait ce que c'est. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Que même sans avoir l'autorisation de monsieur le curé, vous avez depuis des siècles entretenu votre fort intérieur. Vous lui parlez, vous lui dites, vous me dites après, « Oh, je savais qu'il ne fallait pas y aller, mais j'y étais quand même. » Vous le saviez par qui, comment, hein ? Il ne faut pas s'asseoir, justement, sur son fort intérieur. On ne va pas porter au nu les gens fadas, la vieille Anglaise qui prend son toutou pour son ex-mari et qui « Ah, ah, come on, baby !» Non, c'est ce que M. Durkheim appelle la vieille tante transcendantale. Ça existe surtout chez les bonnes femmes. Pourquoi ? Oh, il y a des bonhommes transcendantaux aussi, hein ? Mais faites attention avec cet aspect de la sagesse comme une excroissance de la culture qui peut habiter notre mental de moderne. C'est dommage. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut essayer d'aider la croissance de la personne déjà chez l'enfant en le laissant souvent sans directive. Hein? Vous avez des grands pédagogues qui disent que les enfants doivent s'ennuyer un peu, connaître. Alors, connaître par le silence, hein? Rester sans rien faire. Et de nos jours, très souvent, quand un enfant flotte comme ça, au milieu de rien, il y a toujours un adulte pressé, efficace, qui lui dit « qu'est-ce que tu as à faire la gueule ?» Ah. Il faudrait écrire un petit machin là-dessus, avec un bon illustrateur, qui vous ferait le père ultra pressé, avec boutonné de travers avec sa lunette comme ça, qui dit à son petit gosse qui est au milieu comme ça, « pourquoi tu fais la gueule ?» Fais pas la gueule, il fait rien.
Le temps du rien.
Le temps du rien.
C'est votre devise.
Eh oui. Et c'est là le seul qui m'a écrit quelque chose de très utile, qui est médecin à Bordeaux, et qui a fait un article sur comment on apprivoise ce temps du rien dans une leçon. Parce qu'on fait à fond, une seule fois, puis on arrête. Et on respire. Ça fait une autre mémoire, ça fait un autre corps, ça fait un autre geste. Et il dit qu'on l'a fixé, comme on fixe une peinture, hein, pendant le temps du rien. Et j'ai un autre élève qui est anesthésiste, une jeune femme très brillante à Athènes, qui est anesthésiste et spécialisée dans la chirurgie cérébrale. Elle voit des cerveaux ouverts toute la journée. Et elle me dit que en regardant le cerveau, elle sait comment ça respire en bas, comment ça communique, les mêmes rythmes. C'est très intéressant. On a été des drôles de bestiaux avant d'être des hommes. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Pas du tout, ça doit être très compliqué. Mais il y a une chose qui m'intéresse. On a, médicalement, scientifiquement, situé une partie cérébrale, une partie de la compréhension préhistorique, si j'ose dire, le long du nez, juste en dessous, juste au-dessus de la bouche. Un centre voméronasal, je ne sais pas quoi. Et il paraît qu'on a eu un cerveau là, avant, après, je ne sais pas quand. Et on en a eu un autre au niveau du sympathique, parasympathique. On est en train de réhabiliter notre ventre, mais il y avait de l'intelligence par là, peut-être même avant qu'on en ait là. C'est pour ça qu'il y a des tas de choses à apprendre dans mon école. C'est pas seulement le yoga. Hein. Au contraire, tout ça, ça apporte.
Merci beaucoup, Eva Ruchepol, pour ce joli entretien.
Il faut avoir envie pour écouter tout ça.
Merci à David Führer pour la réalisation et à Michael Cailly pour le mixage de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le podcast Experte à la Une est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Je compte sur vous.